Les premières écoles en plein air apparaissent dans les années 1920, à la croisée des enjeux pédagogiques, médicaux et sociaux. Elles visent à préserver les enfants de l'air pollué et de la tuberculose, tout en réinventant la forme scolaire. Aujourd'hui, 5 ans après la crise sanitaire et les confinements successifs, de nombreux enseignants éprouvent le besoin de sortir de la classe pour faire travailler leurs élèves dehors et les reconnecter au vivant. L'éducation hors des murs connaît actuellement un regain d'intérêt, car elle permet d'échapper à la rigidité de la classe en favorisant un apprentissage en extérieur. Cette pratique ancienne devient une réponse contemporaine aux enjeux éducatifs et au mal-être du système. Sortir devient un geste pédagogique et également militant. En ce mois de mai où la nature foisonne, CAD École vous propose une série thématique autour de l'école dehors. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Céline Cael, enseignante de sciences économiques et sociales, et Laurent Reynaud, professeur de sciences de la vie et de la terre. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux enseignants dans le même lycée, le lycée FEDER d'Épinay-sur-Seine. Alors, on va commencer par le début. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous nous expliquiez en quoi consiste une balade sociologique et comment cette pratique s'inscrit dans la continuité de l'héritage de Célestin Freinet et des travaux sociologiques sur la ville.
Une balade sociologique, l'objectif, c'est de faire de la sociologie dans la ville. La sociologie, c'est une science sociale qui étudie les structures de la société, c'est-à-dire comment les sociétés s'organisent. Et souvent, ces sociétés, elles s'organisent avec des disparités entre des groupes d'individus. Et l'idée de la sociologie urbaine, donc des balades sociologiques, c'est de retrouver ces structures sociales, mais dans la manière dont les villes sont organisées. Et donc, quand on va faire une balade sociologique, on va regarder tous les signes qui expriment non seulement le capital économique d'un quartier, donc sa richesse vraiment économique, mais aussi tous les signes de capital culturel, la présence de galeries d'art, d'artistes, tous les signes de capital social. Est-ce qu'il y a des transports? Est-ce qu'il y a de quoi? Et des parcs? Quelle est la qualité de l'air? Tout ça va nous permettre de retrouver des signes de la structure de la société, mais dans la ville. Et ça permet d'être en continuité avec ce qu'on étudie en cours de sociaux, dans le sens où ça permet de voir concrètement quelle forme prend l'organisation de la société dans des choses aussi simples que la façade d'un bâtiment, par exemple, la rénovation d'un bâtiment, la présence d'un vigile ou non à l'entrée d'un lieu culturel, ce type d'éléments.
Laurent, tu veux continuer ?
Oui, alors du coup, tu positionnais la balade sociologique, en tout cas en extérieur, à l'héritage de Célestin Freinet, mais plus généralement, on peut dire que c'est l'éducation nouvelle qui porte un peu cette volonté de sortir dehors. Et en fait, tu l'as dit aussi en introduction, c'était même en amont, même un encouragement institutionnel. Du coup, nous, l'avantage quand même dans la pédagogie Freinet, c'est qu'il y a une affiliation pédagogique au fait de sortir, une réflexion pédagogique. Et en gros, il y a deux dispositifs, un peu, il y a la classe promenade, c'est en gros de l'observation où les enfants vont récolter, vont observer et vont revenir en classe pour étudier tout cela. Et puis, il y a un autre dispositif qui s'appelle l'étude du milieu. C'est plutôt là, aller étudier le milieu local dans lequel sont les élèves. Alors, ce n'est pas forcément la nature, le milieu local, quoi. Et du coup, nous, c'est un peu ce qu'on fait, la balade sociologique, ça s'apparenterait davantage à une étude du milieu. Alors ensuite, pour décortiquer étude du milieu, donc déjà, le milieu, c'est quoi? Ben, pour nous, c'est important de préciser que le milieu, ce n'est pas forcément du vert. Donc, nous, tu l'as dit, on vient du lycée Jacques Feder à Épinay-sur-Seine. Et autour de nous, quand on veut sortir, si on ne prend pas un bus, eh bien, autour de nous, il y a beaucoup de goudron, de béton. Mais en fait, c'est le milieu. Donc, faire classe dehors, je trouve que c'est important de déconstruire le fait que ce n'est pas forcément faire classe dans le vert. Et pour autant, c'est une nature, c'est un milieu qui est le leur. Et je trouve ça, c'est pertinent. Ensuite, le milieu, c'est l'étude. Le mot étude, qu'est-ce que ça veut dire ? Parfois, on pourrait l'associer au mot visite. Par exemple, on pourrait dire quand on fait la visite d'un musée, on fait l'étude du milieu, mais pas forcément, parce que le musée, c'est pas enraciné dans le contexte local. Et puis, c'est parfois fait par des guides qui n'ont pas une sensibilité pédagogique, quoi. Alors que l'idée vraiment de l'étude du milieu, c'est peut-être le format de l'enquête, c'est-à-dire de sortir de l'établissement, aller à côté, mais dans un milieu commun, c'est-à-dire celui que fréquentent les élèves sur le chemin d'école, par exemple, hein, et juste changer de lunettes, Céline l'a dit, pour l'observer à travers différents filtres, différents focales. L'objectif de ça, c'est de ramener un peu les enjeux programmatiques de programmes scolaires à portée de main, et c'est-à-dire de voir que ce que l'on étudie dans les programmes, ce n'est pas un savoir loin, distant, mais c'est un savoir quotidien et commun, Et ça, on fait d'une pierre deux coups, il me semble, avec l'étude du milieu, c'est-à-dire susciter l'intérêt des élèves sur les notions du programme, puisque c'est leur milieu, leur quotidien, mais aussi, et c'est peut-être ça qui est important, ne pas que faire du savoir théorique, mais comment dire, c'est-à-dire que si le savoir est là à côté, ils peuvent aussi s'en saisir ensuite pour agir dessus, quoi. Moi, je pense notamment à la biodiversité, là. C'est souvent dans le programme de SVT, on peut étudier la biodiversité. Les élèves peuvent projeter souvent des représentations sur la forêt tropicale qui est loin. On peut comprendre la biodiversité, mais très vite sur l'action, on dit bah, oui, de toute façon, c'est trop loin, enfin, on ne peut rien faire. Alors que si on regarde la biodiversité à l'échelle du parc ou à l'échelle du chemin de l'école, en regardant juste les espèces végétales, par exemple, bon, ben là, on voit ce qu'est la biodiversité, déjà, pareil, mais en plus, on peut agir dessus puisque c'est à portée de main. Voilà. Donc voilà, c'est l'étude du milieu, c'est ce que nous faisons.
Alors justement, vous enseignez deux disciplines différentes, les sciences économiques et sociales et les sciences de la vie et de la terre. Alors comment est-ce que, à travers la balade sociologique, vous arrivez à faire dialoguer vos deux disciplines dans une approche commune du territoire?
Ce qui est intéressant dans l'étude du milieu, c'est que on est obligé de sortir d'un raisonnement par silo, par discipline. Parce qu'en fait, par définition, le milieu ne répond pas à une discipline, voilà, cloisonnée. Alors, on peut mettre, nous, on a c'est l'étude sociologique, donc forcément, on a un prisme disciplinaire. Mais par exemple, moi, qui suis en SVT, ce qui m'intéresse quand j'en fais la balade sociologique, voilà, c'est plutôt le fait de sortir dehors, de voir comment les élèves vont réfléchir sur leur milieu, quelles observations ils vont faire, etc. Si vous voulez, c'est la compétence d'observation, de réflexion dessus, qui est plus intéressante que le programme même de SVT. Il me semble que c'est la condition nécessaire que d'avoir une vision plutôt transdisciplinaire, quoi. Voilà.
Moi, j'aimerais rebondir là-dessus en disant que je crois, hein, la vision transdisciplinaire ici, c'est que, en fait, à partir du moment où on est en extérieur, on peut faire vivre la démarche scientifique concrètement. Et en fait, la démarche scientifique, c'est pas juste un truc de SVT ou de physique, chimie ou de maths. C'est, en fait, à mon avis, une manière pour les élèves de se placer en tant que citoyens dans la société. C'est-à-dire que quand on se confronte à une réalité de l'extérieur, on peut seulement observer et en faire des conclusions. Mais en fait, l'école a pour objectif justement d'aller au-delà de ces observations et de les croiser avec d'autres éléments, des données plus larges, d'aller vérifier certaines choses, certains ressentis qu'on peut avoir. Et donc ce processus de je fais une hypothèse sur ce que je vois à l'extérieur, de cette hypothèse, j'essaye d'en déduire des conclusions à l'aide de données plus larges que je vais rechercher. En fait, c'est pas un truc de sociologie, c'est pas un truc de SVT, c'est vraiment la démarche citoyenne en tant que telle. Et ce que j'aime bien dire, c'est que parfois, même au sommet de l'État, les observations sont des conclusions. Et nous, ce qu'on essaie de faire avec nos élèves, c'est que les observations soient en fait quelque chose pour travailler et pour aller chercher plus loin et un élément à vérifier et à croiser avec d'autres données. Et ça, finalement, c'est commun à l'école, à la démarche de la construction de ce qu'on pourrait appeler, mais sans doute de manière peut-être mal nommée, mais l'esprit critique.
Alors, j'aimerais vous demander depuis quand est-ce que vous pratiquez ces balades sociologiques avec vos élèves? Comment est-ce qu'elle vous est venue, cette idée?
De mon côté, les balades sociaux, je pense que j'en fais depuis 5 ou 6 ans. Donc nous, on est en région parisienne, donc l'idée c'était vraiment ça, de dire que l'école dehors, c'était pas uniquement aller dans une forêt, c'était voilà, utiliser le milieu urbain et le milieu des élèves. Comment est venue l'idée? Bon, ce qui est difficile quand on est en classe, c'est qu'on étudie plein de choses, mais qui peuvent paraître assez loin des élèves. Je pense que Laurent l'a dit. On étudie des éléments de société, mais en fait, on les étudie à travers un texte, à travers une image, quand parfois il suffit de faire 4 pas dehors pour le voir. Et peut-être que quand on fait 4 pas dehors pour le voir, on comprend les choses dans une complexité plus large que lorsqu'on essaie de le simplifier à travers un document textuel ou imagé. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est de rendre concret les apprentissages. C'est comme ça que vient l'idée. Et puis après, bon, pour être un peu plus précis, la balade sociologique, ça s'inscrit aussi dans l'héritage des sciences sociales, puisque la sociologie urbaine, c'est une matière en tant que telle qui existe. Mais comme on l'a dit, nous, on essaie de justement pas se limiter au silo disciplinaire et d'élargir les objectifs de ces balades.
Alors, vous parlez de concret. Est-ce que vous pourriez justement nous donner des exemples d'activités transposables où vous avez fait des observations sur le terrain et vos observations sont donc le point de départ d'une réflexion que vous allez ensuite, j'imagine, utiliser, enfin voilà, faire vivre en classe. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples dans interdisciplinaire, transdisciplinaire ou bien plus axé SES ou SVT?
Pour rebondir justement sur ces observations, si on se promène à Paris, il y a un quartier qui est le quartier de la Gare du Nord, où les élèves vont tout de suite dire que ce quartier-là, il est sale, il y a en effet peu de biodiversité, il est pauvre, il y a des personnes qui mendient dans les rues. Et ça, c'est une observation qu'ils vont faire. Et en fait, quand ils vont aller confronter ça aux données du niveau de vie, qui sont des données qu'on a, des données quantitatives de ce quartier, ils vont se rendre compte qu'en réalité, non, c'est un quartier plutôt riche. Que le prix au mètre carré est très élevé, que les personnes qui vivent là payent un loyer très élevé, que c'est plutôt des personnes issues de milieux favorisés. Et donc ça, typiquement, c'est une vraie expérience de la remise en question des observations par la vérification de nos observations. Donc à mon avis, c'est quelque chose, c'est un bon exemple en fait de ce qu'on peut faire et de ce qui peut être intéressant. Mais après, voilà, c'est aussi intéressant de dire que les observations des élèves sont souvent très, très justes et se croisent parfaitement avec des données plus larges. Et que les élèves sont largement plus imaginatifs que nous dans nos matières, avec nos programmes, pour observer des éléments qui sont en fait pertinents. Et je donnerai un autre exemple parce que ça, peut-être que ça remet ça un peu dans le concret. Donc, on fait aussi une balade sociologique dans le 16e arrondissement. Et moi, je voulais que les élèves, ils observent la qualité des bâtiments, la qualité de l'air, le fait que ce soit des architectes qui ont construit de nombreux immeubles. Et tout ça, c'est des signes du capital économique du quartier. Mais en fait, mes élèves, je ne leur ai pas dit ça. Je suis restée assez large dans la consigne pour justement qu'ils soient imaginatifs. Et en fait, eux, ils ont observé les races de chiens. Et l'idée que dans ce quartier, il n'y avait que des chiens de race qui coûtaient 2000 euros le chien. Et en fait, c'est bien plus intéressant pour eux de vivre cette observation-là et d'en déduire quelque chose que finalement de partir de ce que j'aurais fait si j'avais pris une photo que j'avais mise dans un document à travailler en classe.
Laurent Reynaud.
Pour rebondir sur ce que dit Céline, moi, ce qui me marque aussi, enfin, c'est toujours l'équilibre à trouver entre accompagner sans enfermer. C'est-à-dire qu'on imagine bien qu'une balade sociologique ou même le fait de sortir souvent en tant qu'enseignant, on prévoit un petit livret quoi, pour donner les choses à faire, les consignes. Sinon, on va juste dehors et on regarde. Quoi. Mais bon, on n'est pas là pour juste regarder les papillons. Donc, en fait, pour accompagner les élèves, on va faire ce petit livret. Et donc, on va leur demander, on leur dit quoi faire, voire parfois quoi regarder, quoi observer. Et peut-être qu'aussi, il faut aussi parfois admettre qu'il faut un peu lâcher ça parce que leur observation est parfois pertinente. C'est exactement ce que vient de dire Céline. Et moi, j'ai été frappé. Par exemple, les élèves aussi notent que la largeur des trottoirs dans le 6e arrondissement est beaucoup plus importante que la largeur des trottoirs dans un autre arrondissement avec un capital économique moins fort, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément mis l'œil dessus, nous, en tant qu'enseignants, en tant que citoyens, en tant que pédagogues, quoi. Et donc, c'est pour ça que c'est bien de laisser aussi l'ouverture de l'observation, parce que parfois, eux-mêmes, et c'est comme ça qu'ils se saisissent vraiment du milieu. Sinon, ils ne s'en saisissent pas, juste, ils exécutent à l'intérieur, quoi. Donc, il faut aussi laisser des moments de liberté, mais pas... Enfin, c'est un équilibre, quoi, à trouver, il me semble. Voilà. Et en SVT, je trouve ce qui est bien aussi, le fait de sortir à l'extérieur pour faire cours, avec la nature, c'est que parfois, il y a des choses qui résistent un peu à l'interprétation ou à l'analyse. Par exemple, moi, si je veux travailler sur, je sais pas, la floraison, quoi, voilà, en SVT, on dit que les plantes à fleurs s'appellent des angiospermes. Eh bien là, je peux projeter une fleur et puis expliquer que, voilà, ça s'appelle des angiospermes. Mais quand ils vont sortir, les élèves, ils ne vont même pas regarder des plantes à fleurs ou même pas associer le contenu académique qu'on a vu en cours, ils ne vont même pas le transférer dans leur vie quotidienne. Je trouve c'est ça qui est... Et parfois, c'est ce fossé-là qu'on cherche à combler. Or, dans l'observation, ils vont voir, par exemple, un pissenlit. Et puis, à ce moment-là, on pourra leur dire que c'est un enjeu de terme. Mais ce qui est intéressant, c'est de leur dire, regarde bien ce pissenlit que tu fréquentes sur la route de l'école tous les jours. Et puis, tu me diras ce que tu observes. Et puis, en fait, quelques jours plus tard, les élèves arrivent en disant, oh là là, mais il n'y a plus de fleurs jaunes. C'est devenu un truc, vous savez, quand on souffle, tout s'envole. Quoi. Bon, ben, ça, c'est le fait que la fleur se transforme en fruit. C'est vraiment très bête à dire comme ça, mais ils l'ont vu. qu'une fleur se transformait en fruit. Juste, ils ne l'ont pas appris dans un livre ou sur une projection numérique, quoi. Et ça, ça change un peu tout parce que justement, ils l'ont vu de manière concrète. Et donc, il y a un intérêt, une appétence qui est peut-être un peu plus forte, en tout cas de nature à combler ce fossé entre des savoirs académiques qui seraient concentrés dans des ouvrages ou dans des salles de classe, et puis des savoirs expérientiels, en fait, qui seraient dans leur quotidien, quoi.
Alors, vous nous avez parlé tous les deux de la posture de l'enseignant qui doit être un peu, qui doit exercer un lâcher prise, laisser la place à l'inattendu parce que l'environnement il est mouvant, donc forcément il y a des choses qu'on n'attend pas qui vont se passer. Vous nous avez aussi parlé du fait que les élèves y vivent une expérience, mais est-ce qu'ils ont, j'aimerais qu'on aille un peu sur le point de vue des élèves et les retours que vous avez de vos élèves, est-ce qu'ils en sont conscients des acquis qu'ils font grâce à l'expérience et quel retour ils vous font? Est-ce qu'ils vous disent simplement « c'était super, on est allé se balader » ou est-ce que vraiment ils font le lien avec des contenus, avec le fait d'apprendre des choses, quoi, d'avoir un vrai apprentissage?
Je pense que ça, c'est tout l'enjeu de ce travail de la classe dehors et de cet équilibre que donnait Laurence et de cet équilibre dont parlait Laurence, c'est que c'est pas juste aller dehors pour aller dehors et passer un bon moment. C'est pour apprendre. Et donc, il faut réussir à faire ce moment qu'on va appeler un moment de métacognition à la fin d'une pratique plus expérientielle en disant, qu'est-ce que j'ai appris? Parce que pour les élèves, c'est pas toujours évident dans des formes d'apprentissage dans lesquelles ils se retrouvent davantage, dans lesquelles ils ressentent plus de plaisir, de visualiser ça comme de l'apprentissage. C'est un problème d'ailleurs. Ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses sur notre système, je pense, éducatif, mais c'est une réalité. Quand les apprentissages apparaissent comme du plaisir, souvent ils se disent, bah, aujourd'hui on a fait une sortie, c'était super. On a travaillé en groupe, c'était super. Donc c'est important de faire ce pas de côté de oui, mais qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Et faire classe dehors, ça ne veut pas dire, à un moment donné, ne pas faire un point théorique, ça ne veut pas dire ne pas faire le lien, revenir en classe et faire le lien avec ce qu'on a vu, solliciter ce qu'ils ont appris à l'extérieur pour faire un moment, de temps d'apprentissage plus magistral. Tout ça n'est pas du tout antinomique.
Laurent Reynaud.
Parfois, quand on va dehors, les élèves doivent observer des choses. Alors, voilà. Et après, quand on va leur dire qu'est-ce qu'ils ont appris, bon, ils vont pas forcément. En fait, le moment, c'est pas la compétence même de savoir poser un regard sur du quotidien. C'est-à-dire que le quotidien, on le regarde plus, on le traverse, quoi. Et quand un enseignant sort avec les élèves, c'est peut-être, peu importe la discipline, en réalité, c'est d'apprendre à poser un regard sur des détails du quotidien pour après en interpréter des choses. Et ça, bien sûr qu'à la fin d'une séance, ils vont pas forcément, ça va pas être du déclaratif, quoi. Ils vont pas dire, ah oui, j'ai appris à poser un regard. Mais c'est là où arrive l'expertise enseignante, c'est d'arriver à expliciter ça, soit en amont de la séance, pour dire qu'on va faire ça, ou peut-être un peu plus intéressant, en aval, de leur faire réfléchir sur pourquoi ça on l'a fait en sortant de dehors, et pourquoi on l'a pas fait dans la classe. Quelle est la plus-value, si vous voulez. Et en fait, en tout cas, bon, nous, on est au lycée, mais cette réflexion-là, elle est tout aussi intéressante que le fait même de sortir. Et au lycée, ça marche assez bien, je trouve. Quand on leur demande simplement, OK, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui et pourquoi, à ton avis, c'est plus intéressant ou pas, d'ailleurs, de sortir à l'extérieur pour le faire. Mais ça oblige. C'est-à-dire que justement, si on faisait cours dans la classe, on postulerait, si vous nous posez la question parce qu'on les sort, mais on ne les aurait pas sortis, on fait cours en classe, on ne nous aurait sans doute pas posé la question en disant, mais est-ce que vous êtes sûr qu'après une séance de classe, ils ont appris quelque chose? Alors qu'en réalité, quand on les sort, on se pose la question parce qu'on n'a pas envie de faire juste un truc de récréation. Et c'est ça qui est intéressant en termes d'expertise d'enseignant. C'est que du coup, on se pose la question, cette même question qu'on devrait se poser en réalité dans toutes les situations d'apprentissage.
C'est vrai. Alors les 15, je ne sais plus quel jour exactement, mais le 14 ou le 15 mai, il me semble que vous animez un atelier à l'occasion de la rencontre internationale de la classe dehors. Vous allez organiser une balade urbaine, j'imagine, dans Marseille, à destination d'un public enseignant. Quels seront pour vous les objectifs de ce petit atelier?
À mon avis, l'objectif, c'est justement, le premier, c'est de faire expérimenter ça à des collègues, c'est-à-dire de se confronter à un milieu qui est urbain et de voir quels apprentissages ils peuvent en faire à partir de différentes choses, de différents parcours qu'on aura prévus et de différents points d'observation. Mais c'est ça l'idée. Et après, l'autre élément qui est, à mon avis, intéressant et qui est intéressant dans ces rencontres, c'est que des élèves seront présents. Donc, ce ne sera pas qu'un public d'enseignants. Et l'idée, ça va être de croiser les regards avec les élèves sur ce qu'ils sont en train de vivre et ce que ça leur permet d'apprendre. Et ce croisement de regards enseignant-élève, c'est aussi une manière de réfléchir à comment faire cours à l'extérieur et que ces moments d'extérieur soient des vrais moments d'apprentissage. Et comment ça peut être ou pas des moments d'apprentissage pour les élèves.
Laurent Reynaud.
Comme disait Céline, dans cette balade sociologique qu'on anime à Marseille, nous, on avait à cœur qu'il y ait des élèves. Et puis, en réalité, il n'y a pas que des enseignants. Il y a aussi des responsables de milieux associatifs. Et pour nous, c'est important parce que l'éducation globale, c'est une éducation qui réunit à la fois l'éducation scolaire, bien sûr, mais aussi l'éducation populaire, associative, et puis toute l'éducation parentale. Donc, pour nous, l'étude du milieu, le milieu, c'est pas quelque chose, une nature complètement dépeuplée ou désincarnée. Et pour nous, le milieu, c'est justement le local, comme on l'a dit, avec des gens. Et dans la balade sociologique, par exemple, ceux qui la vivent sont amenés parfois à faire des interviews. Et nous, on a à cœur de ça, c'est-à-dire que ça soit un dispositif pédagogique qui puisse croiser toutes les éducations pour travailler ensemble, finalement, de manière conjointe à l'éducation des jeunes, quoi. Voilà.
Alors, on arrive doucement vers la fin de cette émission. Est-ce que, Céline Kael, vous auriez quelque chose à ajouter par rapport à ces balades sociologiques, avant de terminer?
Oui, en fait, souvent, on associe le travail concret, le travail manuel, à des élèves qui seraient, par exemple, en lycée professionnel et qui auraient un niveau plus faible que les autres. Et l'idée de la classe dehors, c'est aussi ça, c'est de relier les savoirs concrets au savoir académique. Et finalement, cette liaison entre les deux, elle est bien plus exigeante qu'elle n'y paraît. Et ça permet de sortir de ce cliché que le manuel, le concret, serait destiné à un certain type d'élèves et l'académique à un autre. Ça permet de relier réellement les apprentissages dans tous ces aspects et relier le concret à l'académique est finalement quelque chose d'assez difficile, mais qui permet en même temps, je l'espère, de raccrocher des élèves qui se sentent éloignés de l'école parce que ça ne leur apparaît pas comme quelque chose qu'ils comprennent dans leur quotidien. Donc je pense que c'est important de relier la classe dehors à ces enjeux-là, de l'apprentissage par les mains et du fait de penser finalement, comme on dit souvent avec Laurent, de penser avec les mains. Mais avec les mains, ce n'est pas juste construire des choses, c'est aussi construire ou être dans le manuel, c'est aussi être dans l'extérieur, être dans le territoire, en fait. Donc, c'est quelque chose de physique. Quand on dit penser avec les mains, ce n'est pas uniquement construire, c'est être physiquement en réflexion avec notre milieu.
Laurent Reynaud.
Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Tout à l'heure, on parlait de poser un regard sur le milieu, mais en réalité, sortir, c'est aussi changer de regard. On le voit bien, d'ailleurs, n'importe quel enseignant qui fait une sortie scolaire, parfois, il y a un regard qui change sur un élève qui parfois peut être très un peu pénible en classe. Ben, dehors, on va le voir très autonome, finalement, ou l'inverse, d'ailleurs. Un élève très autonome, en tout cas, pense-t-on en classe. Quand on sort, on va le voir un peu pétrifié, collé à nous, etc. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant de changer de contexte. C'est qu'en fait, en changeant de contexte, on change de regard sur les élèves et la réciproque est sans doute vraie aussi. Et cette relation de confiance qui s'installe dans les changements de regard, ensuite, elle est profitable quand on fait classe de manière traditionnelle, entre gros guillemets, quoi. Donc, c'est plutôt une expérience à tester. Voilà.
Merci beaucoup, Céline Kael et Laurent Reynaud, d'avoir accepté notre invitation. C'était passionnant. La balade sociologique nous rappelle que la ville elle-même peut devenir un espace d'apprentissage vivant où se croisent savoirs scolaires et expériences sensibles. C'est une manière stimulante de donner du sens aux enseignements en reconnectant les élèves à leur environnement quotidien. Et vous nous l'avez bien expliqué. Si la thématique de l'école dehors vous intéresse, vous pouvez écouter les 4 autres épisodes de Cas d'école dans les hors-séries du mois de mai. Vous pouvez également retrouver des ressources sur cette thématique dans la rubrique « Pour aller plus loin » sur le site de Cas d'école à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr/cas-d'école. À bientôt !